panorama économique.
Je vous salue et vous souhaite la bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur Radio Okapi, les grandes articulations. Tout de suite, la première partie de cette émission est consacrée au bilan 2016 des entreprises et sociétés œuvrant en RDC. Et dans la foulée, l'année 2016 aura été une année extrêmement difficile pour la cimenterie de Lukala. Après 96 années de présence en RDC, le marché du ciment en 2016 était particulièrement troublé par les importations du ciment angolais. C'est le bilan que dresse le directeur général de la Silou dans un échange avec ses clients et revendeurs lundi, ici même à Kinshasa. Mais pour la minière Kibali Gold Mines, bien qu'étant une année extrêmement difficile, 2016 s'est clôturé par une note satisfaisante. Dans le nord Kivu, les agriculteurs du groupement de Binza ont du mal à évacuer leurs produits de champs vers Goma. La route Kiwanja Yamilima Ishasha est dans un état de délabrement très avancé et le fonctionnaire délégué adjoint de Yamilima crie déjà au manque à gagner. À Kisangani, c'est le gouvernement provincial qui valide la durée de 5 ans de la taxe d'agrément de l'exploitation artisanale de bois. Le conseiller du ministre provincial du Tourisme l'a annoncé mardi au cours d'une conférence de presse. Et dans la deuxième partie de Panorama économique, nous recevons tour à tour la directrice de communication de la Banque mondiale pour la région Afrique et la fondatrice de la start-up Welcome Group Africa. Voilà pour les grands titres, messieurs et dames. Bienvenue à Panorama économique sur Radio Okapi.
Panorama économique, le dossier.
Encore une fois, bonjour à toutes et à tous. L'année 2016, une année extrêmement difficile pour la cimenterie de Lukala. Après 96 années de présence en RDC, le marché du ciment en cette année était particulièrement troublé par les importations du ciment angolais. Ce sont les propos du directeur général de la Silou lundi à Kinshasa au cours d'un échange avec ses revendeurs et clients. La Silou se dit tout de même prête à affronter la concurrence dans un marché qui est désormais ouvert. Elle va lancer sous peu un nouvel design de son emballage et compte aussi construire à Kinshasa un dépôt central dans le souci de rapprocher de la clientèle les produits. Ola Ora est le directeur général de la Silou.
Je peux confirmer également donc que l'année 2016, en somme, a été extrêmement difficile et contraignante pour la Silou. Mais qu'en somme, nous sortons, je dirais, renforcés en 2016 pour maintenant nous engager en 2017. C'est déjà clair que beaucoup de choses devront changer en 2017 parce que d'abord, il y aura aujourd'hui, nous sommes déjà deux cimenteries à travailler dans le Bas-Congo. Une troisième s'apprête à démarrer dans les quelques mois à venir. Je crois que ceci également va obligatoirement changer au fur et à mesure la donne avec les importations angolaises, que cette opération au moins ne sera pas du tout aussi importante et dominante qu'elle en a été en 2017.
Quelles mesures concrètes Silou a-t-elle pris face à la concurrence qui va devenir bientôt rude? Allusion faite ici à l'élément prix de la marchandise et ça a été plusieurs fois répété par les participants à cette rencontre que sont les revendeurs de produits Silou.
Bon, d'abord, à votre dernière chose, j'ai essayé d'expliquer au cours de cet exposé et aussi de débat qui a suivi, encore une fois, pourquoi le ciment angolais, momentanément, est extrêmement concurrentiel en cours, ce qui est lié à une période de très courte durée qui doit se rectifier, où leur monnaie a chuté en valeur, ce qui fait que le coût devient loin en dessous que nous pouvons fabriquer de ciment. Comme je perçois ce problème comme étant de courte durée, la concurrence de demain sera entre acteurs nationaux qui jouent, comment dirais-je, le même jeu sur le même terrain. Ils ont les mêmes contraintes, ils ont les coûts ici en RDC pour fabriquer du ciment. Ce sera une concurrence aussi dure, mais que je ne crains pas par rapport aux importations que nous avons connues en 2016. En réduisant en général nos coûts de fabrication du ciment pour être plus compétitifs à tous les niveaux, que ce soit des coûts directement liés à nos opérations, à notre fabrication ou à la logistique pour faire venir ce ciment au marché.
Dites-nous, monsieur le DG, est-ce que la décision du gouvernement interdisant les importations du ciment vous a aidé en quelque chose en 2016?
En 2016, malheureusement, pas grand-chose, parce que toutes ces initiatives n'ont pu donner que des effets de courte durée, parce que le marché a repris d'être dominé par ces importations angolaises. Et pourquoi donc la Silou a beaucoup souffert en 2016? On ne peut pas cacher ça.
L'année 2016 était également une année difficile pour la société minière Kibali Gold Mines, mais elle s'est terminée sur une note satisfaisante car une grande partie de défis a été relevée. C'est Marc Bristow, président de Kibali Gold et PDG de Round Gold, qui l'a dit à Kinshasa lundi au cours d'une conférence de presse. Les difficultés sont consécutives à la baisse des cours des matières premières que l'entreprise exporte. Les détails avec Alain Irung.
Dans son allocution lors de cette conférence de presse, Marc Bristow, président directeur général de Randgold, a déclaré que les améliorations apportées au procédé métallurgique ont contribué à l'amélioration du taux de récupération. Sans toutefois donner plus de détails sur la production d'once d'or en 2016, il s'est dit satisfait. Parmi les questions critiques rencontrées au cours de l'année 2016 figurent notamment le retard de paiement des remboursements de crédit TVA. Alors que le gouvernement s'est engagé à faire des remboursements et à effectuer certains paiements, les difficultés politiques récentes au pays ont détourné l'administration de ces questions. La question sur les différents projets initiés était également évoquée. En ce qui concerne l'agroalimentaire, le projet d'huile de palme de Kibali a été révisé et est prêt à être lancé de façon graduelle. Et le projet de maïs progresse et son champ pilote a démontré qu'il est possible de récolter deux fois l'an. Parmi les autres projets, il y a la centrale hydroélectrique d'Ambaro qui est en cours de mise en service et devrait produire de l'électricité en quelques semaines. Autre actualité évoquée dans cette conférence de presse, c'est au sujet de la plainte des agents de la Sokimo sur le non-paiement de 10% que Kibali doit à Sokimo, qui représente le gouvernement congolais dans ce projet. À ce sujet, Cyril Mutombo a souligné, je cite, « Le projet Kibali est encore en train de fonctionner en mode dette, il est en train de recréer son capital auprès de banquiers et ils n'ont pas encore commencé la redistribution de dividendes. Il n'y a donc aucun retard par rapport à ces sujets. » Fin de citation.
Et retrouvons à présent Denise Maheo depuis Lubumbashi. Denise nous parle de l'ONG Action pour la défense des droits humains qui a publié mercredi à Kolwezi un rapport intitulé « Projet minier Kamoto Copper Company, KCC en sigle, qui en tire profit. Pour cette organisation, depuis le lancement de la production de KCC en 2007, elle ne paye pas à l'État congolais l'impôt sur les bénéfices et profits, ce qui constitue un manque à gagner estimé à plus de 30 millions de dollars américains. De son côté, l'entreprise KCC s'en défend. Elle paye ses impôts et mène même des actions sociales. Et alors, qu'est-ce qui fait que plusieurs entreprises minières ne payent pas l'impôt sur bénéfices, même après l'amortissement de leurs investissements? Suivez plutôt ce dossier que nous a préparé Denise Maheo.
Dans son rapport, l'ONG Action pour la défense des droits humains, ADDH, affirme avoir analysé les états financiers de l'entreprise minière KCC. Entre 2009 et 2014, cette entreprise minière n'a enregistré que de pertes, ce qui ne lui a pas permis de payer l'impôt sur les bénéfices et profits qui est de 30%. Maître Dodé Kitwa Kalume, responsable de l'ONG ADDH, basé à Kolwezi.
Il y a les actifs immobiliers qui sont très élevés, mais aussi il y a des charges vraiment importantes. Entre autres aussi les emprunts que l'entreprise recouvre. L'estimation de manque à gagner est de 30,48 millions, tous les flux confondus.
Du côté de l'entreprise minière KCC, l'on se défend. Dans son communiqué publié ce dimanche, le président du conseil d'administration assure que KCC et l'entreprise sœur Mutanda Mining ont versé à l'État congolais au cours de deux dernières années plus $1 milliard à titre d'impôts et redevances. Mais le constat fait par différentes ONG qui œuvrent dans le secteur minier est que plusieurs entreprises minières échappent au paiement de l'impôt sur les bénéfices et profits. Qu'est-ce qui explique cette attitude des entreprises minières? Lems Kamoanya, expert en économie.
Il y a deux cas qui peuvent arriver. On peut avoir un business plan qui vous donne une prévision. Il se fait que sur terrain, vous pouvez avoir un retard dans la mise en œuvre de votre investissement, ou peut-être les estimations que vous aviez arrêtées au départ font que les investissements coûtent plus cher que ce qui avait été prévu. Pour ce cas, on peut comprendre, mais si une entreprise où il y a déjà la production commerciale et on arrive encore à proposer un programme d'investissement, ça pourrait être interprété comme une évasion non frauduleuse de l'impôt, c'est-à-dire on exploite les faiblesses de la loi pour ne pas payer l'impôt.
Pour revenir à l'entreprise KCC, elle compte 48 carrés miniers répartis sur 6 gisements. Avant septembre 2015, sa production était de plus de 150 000 tonnes de cuivre et de cobalt.
Merci Maéo, et pour tous ceux qui viennent de nous prendre en cours, c'est Panorama économique sur Radio Okapi, la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur votre radio.
Panorama économique, chaque samedi à 12h30, Radio Okapi vous offre le survol de toute l'actualité économique de la semaine dans Panorama économique. La vie de marché, les développements des entreprises, l'impact des décisions diverses sur la vie économique, c'est Panorama économique.
Les autres informations de la semaine en bref. Lundi, François-Xavier Mibé nous a parlé de l'attaque des plantations de maïs depuis presque un mois à Kalemi. C'est dans la province du Tanganyika. Les agronomes parlent d'une bactériose active qui sévit dans la région. Au ministère provincial de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement Rural, des données techniques sont attendues avant de conduire des recherches scientifiques appropriées. En province de la Tchopo, l'autorité provinciale vient de reconnaître la validité de 5 ans de la taxe d'agrément pour l'exploitation artisanale de bois d'œuvre, et ce, en conformité avec les textes nationaux qui régissent ce secteur. $600 américains comme frais techniques tels que prévus dans l'arrêté ministériel 84. La nouvelle a été rendue publique mardi par le conseiller juridique du ministère provincial de l'Environnement au cours d'un point de presse dans la commune Makisso. Cette décision du gouverneur de province est saluée avec satisfaction auprès de l'ONG internationale Tropenbos, engagée dans la promotion légale du bois. Une quarantaine d'agents civils et policiers affectés aux différents postes douaniers au Nord Kivu sont depuis mercredi à l'école de la gouvernance et respect des droits humains. Les enseignements de 2 jours sont organisés par l'ONG Action pour le développement des populations défavorisées. Pour l'assistant en charge du programme au sein de cette organisation, des agents d'au moins 5 services affectés au poste douanier seraient peu enclins à l'orthodoxie douanière, créant ainsi un manque à gagner pour le trésor public. Cet atelier était donc une réponse pour atténuer cette situation. Et voici à présent la deuxième partie de Panorama économique sur Radio Okapi. Place à nos deux invités, comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission. La première invitée est Madame Halle Bridi, directrice de communication de la Banque mondiale pour la région Afrique. Elle était en mission cette semaine à Kinshasa. Elle s'entretient avec Nounou Ngoyi.
Halle Bridi, bonjour.
Bonjour,
vous êtes la directrice de communication et des partenariats pour la région d'Afrique à la Banque mondiale. Dites-nous, quelle est la mission principale de la Banque mondiale?
La Banque mondiale est une banque, est une organisation internationale qui est au fait une organisation qui dépend de la des Nations Unies et dont la mission est la réduction de la pauvreté à travers des soutiens financiers mais aussi des soutiens de techniques au gouvernement.
Quel est le rôle de la directrice de communication à la Banque mondiale?
Écoutez, la Banque mondiale donne des financements assez importants sur l'Afrique, et nous, je pense que nous sommes les plus grands financiers parmi les plus grands financiers de l'aide au développement en Afrique. Donc, on a des projets, on a presque juste au Congo, on a presque 2 milliards de dollars d'investissement, peut-être un peu moins, mais c'est dans cet ordre de grandeur. Et donc, notre mon objectif, c'est de partager les résultats de ces projets avec les Africains en général, à travers des programmes radio comme celle-ci, à travers les journaux, à travers les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un volet de mon travail. Le second volet de mon travail, c'est au fait d'être à l'écoute de ce que la population africaine peut penser de nos opérations, peut penser de nos activités, pour que nous fassions mieux, que nous soyons plus à l'écoute de ce que les populations veulent.
Vous dites, vous faites tout pour être proche de la population. Dites-nous quelle approche vous utilisez pour vous rapprocher de la population.
Alors, nous avons des bureaux dans tous les pays d'Afrique et nous avons des pas mal de cadres qui travaillent ici et qui habitent ici et qui sont responsables de ces projets. Donc, eux, dans l'exécution des projets, sont très proches des communautés où ils travaillent parce qu'ils sont régulièrement sur le terrain. Ils travaillent avec les autorités nationales, régionales, locales pour exécuter les projets. Donc ça nous permet d'avoir un contact assez direct parce que nous sommes présents sur le terrain.
Halle Bridi, vous avez dit tout à l'heure que vous appuyez plusieurs pays dans le monde. Ici en RDC, vous appuyez beaucoup de projets dans le domaine de l'environnement. Vous appuyez également des projets dans le domaine de la santé. Pour l'année 2017, qu'est-ce qui est prévu?
En fait, la Banque mondiale, c'est une institution globale. Donc, nous travaillons dans le monde entier. Moi-même, je travaille sur le continent africain. Et donc nous avons des programmes dans tous ces pays-là. En RDC, nous sommes là depuis déjà assez longtemps et nous travaillons dans beaucoup de secteurs. Donc, nous travaillons dans le domaine urbain, pas seulement à Kinshasa, mais dans d'autres zones urbaines. Nous travaillons dans le secteur de l'environnement, comme vous l'avez dit, dans l'agriculture, dans le secteur de la santé. Nous avons des programmes, nous avons un grand programme au niveau de la fonction publique, de l'amélioration de la fonction publique. Nous avons des programmes au niveau de la gouvernance, de l'énergie, de pratiquement tous les secteurs clés de l'économie, on y travaille et j'espère que si notre dialogue est bon, qu'on puisse même augmenter cette collaboration avec la RDC. Mais nous avons un bureau local avec un directeur pays localement. Moi-même, je ne m'occupe pas directement de la RDC, mais le directeur pays, Monsieur Mustapha Ndiaye, est basé ici et s'occupe justement de ce dialogue avec le gouvernement congolais pour décider, parce qu'en fait, c'est le gouvernement qui décide les domaines de nos interventions. Donc, pour décider et déterminer dans quel domaine on travaillera.
En tant que directrice de communication, comment est-ce que la Banque mondiale est perçue en RDC ou dans d'autres pays?
Écoutez, la Banque mondiale, c'est une institution qui est peut-être pas assez bien connue de la part de beaucoup, surtout dans les zones rurales. Et ça, c'est ce qu'on essaie de corriger, c'est ce qu'on voudrait corriger. Parce qu'en fait, nous, on travaille principalement en dehors des villes. Notre travail principal est dans les zones rurales, mais malheureusement, on nous connaît pas trop. Je pense qu'on est un peu une boîte mystérieuse, un peu technique, un peu avec beaucoup d'argent qui est distribué, etc. Donc, nous, on est là, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour réduire la pauvreté dans les pays dans lesquels on travaille. Donc, c'est important pour nous de bien communiquer avec les gens, avec les connaissés d'affectés qui sont les pauvres et qui sont très souvent dans les zones rurales. Donc, la perception de la banque, je pense, est d'une institution grande et puissante, mais elle n'est pas très bien connue. Donc c'est là où on voudrait, peut-être même en partenariat avec vous-même, essayer de mieux la faire connaître et de la rendre plus ouverte et plus transparente pour que les gens puissent comprendre ce qu'on fait.
Dernière question, Halle Bridi. Est-ce qu'on peut dire que la Banque mondiale a accompli jusque-là sa mission?
Non, je ne pense pas qu'elle a accompli sa mission, dans le sens que notre mission ultime, c'est la réduction de la pauvreté, l'élimination de la pauvreté, et qu'en RDC, il y a encore beaucoup de pauvres, et en Afrique, il y a encore beaucoup de pauvres. Donc notre mission n'est pas terminée, mais nous avons fait, dans certains pays plus que dans d'autres, il y a eu beaucoup de progrès dans certains domaines, par exemple dans la scolarisation. Avant, il y avait très peu d'enfants qui étaient scolarisés. Aujourd'hui, je pense qu'en RDC, il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits au niveau de la scolarisation. Ça ne veut pas dire que le travail est terminé, parce que la qualité de l'éducation laisse encore à désirer, donc on doit travailler sur ça. Donc on a fait des progrès, mais notre mission n'est certainement pas encore terminée.
Halley Bridi, je vous dis merci et je rappelle que vous êtes la directrice de communication et des partenariats pour la région d'Afrique à la Banque mondiale.
Exactement, merci à vous. Merci.
Merci Halley Bridi et merci aussi à vous Nounou Ngoï. Bon week-end. Terminons cette émission avec notre deuxième invitée, Sandrine Maillé, fondatrice de la start-up Welcome Group Africa. Bonjour Sandrine et bienvenue au studio de Radio Okapi.
Bonjour Daniel, merci de me recevoir.
Voilà, nous continuons, c'est dans cette série, nous voulons faire la visibilité de quelques start-up qui émergent en République démocratique du Congo. Et parmi ces start-up, vous en êtes une.
Voilà,
vous voulez la présenter?
Oui. Bah, je suis là pour ça.
Oui.
Alors, en fait, du coup, c'est mon initiative partagée. On est un petit groupe à l'avoir créé. Il y a deux fondateurs derrière moi et des investisseurs. C'est très important de le préciser. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a trois entités dans la société. Il y a Taxi Masolo, qui est un magazine qui est distribué dans 250 taxis de la ville. Le principe est assez innovateur parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les attache sur les appuis-têtes. Ça fait que dans des taxis partagés, il y a 100 personnes qui passent minimum par jour. Mmh. Allez, bon, peut-être pas minimum, en moyenne, on va dire, par jour. Mmh. Et du coup, sur 250 taxis, on met environ 500 magazines dedans. Et il y a environ 1 million de personnes qui peuvent voir ces magazines, ce qui crée vraiment beaucoup de visibilité pour les annonceurs. Et nous, ça nous permet de mettre en avant aussi des portraits, de jeunes portraits d'animateurs ou de start-up, etc. On essaye vraiment de montrer ce qu'on peut faire avec peu de moyens. On a aussi la Cheesebox. Ça, c'est un photobooth événementiel. Ce photobooth-là, on le pose dans les soirées en général ou dans des réunions de société, des team building.
C'est l'organisateur de la soirée qui vous invite ou vous venez de vous-même?
En fait, nous, on lui propose. Lorsqu'on voit un événement, un salon, on le propose à des entreprises. Et en fait, eux, ils le mettent sur leur stand, par exemple. Ça leur permet d'être un support de communication et de pouvoir partir, que les clients, enfin les personnes qui viennent sur leur stand puissent partir avec un souvenir, en fait. Parce que directement, on prend la photo et la photo, elle est envoyée directement soit sur Facebook, sur les réseaux sociaux, soit elle est imprimée instantanément. Et c'est pour ça que la Cheesebox, à un moment, c'est arrivé, tout le monde nous l'a arraché parce que vraiment, on a tous des photos de Cheesebox chez nous, quoi. Et voilà.
Et une troisième entité dont vous parlez.
Voilà, donc Youdi, c'est notre projet qui nous tient vraiment au cœur. C'est une vraie création. C'est un site immobilier. C'est une plateforme immobilière, où on voudrait que ça centralise tous les biens immobiliers de Kinshasa. Nous, on a vraiment besoin. On s'est rendu compte à Kinshasa qu'il y avait pas d'endroit où on pouvait se dire voilà, ici, je cherche un appartement. Où je peux aller? Alors, on sait qu'on peut passer par des commissionnaires, par des agences. Mais bon, voilà, maintenant, on est quand même à l'heure du digital. Il y a rien qui est fait pour ça ici, quoi. Donc, nous, on n'est pas là pour concurrencer ni les commissionnaires, ni les agences.
C'est ce que je voulais vous dire. Vous venez leur casser le marché.
Non. On est là en plus. On est là pour leur mettre plus de visibilité. Nous, ce qu'on veut, c'est créer un endroit où on se dit, ici, on peut louer facilement. Le principe est simple. C'est que nous, on met en contact les propriétaires ou l'agent immobilier ou le commissionnaire directement avec le client, avec la personne qui recherche un bien immobilier. Donc nous, en soi, on n'est qu'une plateforme immobilière. Aujourd'hui, on se rend compte que ça plaît, ça fonctionne bien. Quand on diffuse ça sur les réseaux sociaux, on se rend compte qu'il y a une demande aussi de ce côté-là, quoi.
Alors, je voudrais bien revenir, Sandrine, à votre activité que vous appelez Taxi Masolo,
oui,
qui consiste à déposer dans 250 taxis des magazines. Et les clients qui passent, qui utilisent ces taxis, comment ils font? Ils achètent le magazine ou les magazines leur sont distribués?
Non, en fait, le magazine est attaché sur les appuis-têtes. Oui. C'est-à-dire que...
C'est pour leur donner seulement l'information.
Voilà, eux, ils arrivent, ils voient un magazine qui est attaché. Il l'ouvre forcément parce que le magazine il est en train de pendre, hein, quoi. Mmh. Donc, il l'ouvre et là il repart et le magazine reste là. Mmh. C'est ce qui nous permet vraiment à nous de pouvoir toucher un maximum de personnes sans pour autant dépenser des sommes inconsidérables, quoi.
Et les feedbacks sont bons.
Oui, on essaye quand même d'être un magazine en français Lingala qui touche on est un peu dans les songi-songi de la vie quinoise. Mmh. Et on fait l'actu pure et dure, sauf de la politique, ça n'en fait pas. On fait vraiment des choses simples.
Les affaires simples.
Voilà, ce qu'on aime lire quand on est dans un taxi, quoi.
Oui.
Donc voilà, on communique sur des choses... bah, je sais pas, dans le dernier, on parle du retour de Fali, des choses comme ça.
Voilà, qui intéresse beaucoup de jeunes.
On essaye d'être intéressant, oui.
Vraiment. Et voilà. Et c'est, comme c'est une start-up, c'est une petite entreprise en devenir. Et aujourd'hui, puisqu'on parle d'entreprise, vous avez dit, vous êtes créatrice avec deux autres créateurs devant vous, derrière vous. C'est-à-dire, pour le moment, Welcome Group Africa, c'est seulement 3 personnes, 3, 4. Comment, en termes d'employés, combien vous en avez?
En termes d'employés, on en a deux fixes. Après, on a des stagiaires. Des stagiaires qui sont là de manière en alternance, quoi.
Et pour les trois activités que vous avez, quelle évaluation vous faites? Et c'est depuis quand vous l'avez créée, cette start-up?
On a créé la start-up au mois de juin 2016. On évolue progressivement, sûrement, parce qu'on est obligé de toujours changer un peu de stratégie. Il y a plein de choses qu'on ne savait pas de base. Parce que moi, à la base, j'ai fait mes études en Europe. Donc, il y avait plein de choses que je n'avais pas ici, de technique, quoi. Travailler avec les taximen, par exemple, c'est totalement une folie, quoi. Il faut comprendre les choses comment les gens fonctionnent. Il faut comprendre comment la communication fonctionne. Donc, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, on évolue là-dessus. On arrive un peu à dompter tout ça, tout ce qu'on a. On apprend au fur et à mesure. Mmh. Et on est quand même assez jeune, donc c'est un challenge tous les jours, quoi. Bon, voilà. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est que Taxima Solo, on a pas mal d'annonceurs. On commence à être un peu plus connus. La Cheesebox, partout où on va, on nous reconnaît aussi. Dès qu'on revoit cette boîte, ce photomaton, on sait que c'est nous. Et après, maintenant, Youdi, c'est parti pour être la même chose. Nous, on veut que ce soit la même chose.
Youdi.cd. Vous l'avez déjà lancé?
On l'a déjà lancé, ouais, depuis le mois de décembre.
Donc, après cette interview, Daniel peut accéder à Youdi.cd.
Oui.
Et avoir des informations.
Oui. On peut aller sur notre page Facebook.
Je suis intéressé par quelque chose, vous dites, c'est une plateforme immobilière. Mm-hmm. Je découvre quelque chose de bon. Comment vous contactez-vous, Sandrine, pour, justement, je vous écris en ligne où il y a des contacts physiques, une adresse physique où je peux aller m'adresser à Welcome Group Africa.
Alors,
est en ligne pour le moment.
Tout est en ligne. Oui. On a une adresse physique, mais en fait, c'est parce qu'on va la changer. Donc c'est pour ça que je la donne pas. Mais en soi, nous, on est vraiment ouvert. Plus même si on a de la visite, c'est assez rigolo. On est content. Et c'est pour montrer aussi notre activité. À chaque fois, il y a des gens qui veulent venir voir un peu des magazines, comment ça se passe, etc. Donc là, à ce moment-là, on les invite vraiment chez nous. Nos pages Facebook sont très actives, on répond directement. Pour Youdi, il n'y a pas de souci. En général, si on nous envoie un bien, qu'on nous dit, nous ici, moi j'ai 3 appartements, j'aimerais les mettre en plus de ce que du fait que je les ai donnés aux commissionnaires, j'aimerais les mettre sur votre site. Est-ce que c'est possible? C'est possible directement, et nous on les met en avant après sur Facebook.
Vous le mettez en ligne directement, et vous gagnez quoi dans tout ça? Vous êtes une entreprise.
Ouais, là, nous on est en train de créer du volume. Pour le moment, le site n'est pas encore rentable. Nous, on est en train de créer du volume. Ce volume, cette visibilité. Plus on a de biens, plus on aura de la visibilité.
Vous visez les grands nombres.
Voilà. Parce que aujourd'hui, si je veux que ça plaise à n'importe quelle personne à Kinshasa, il faut que j'ai des biens de $400 à $4000. Voilà. Donc, pour ça, il faut qu'on puisse avoir beaucoup, beaucoup de biens différents.
Et jusque-là, ça marche. Il y a des gens qui
s'intéressent. Il y a des gens qui nous contactent, qui veulent savoir. Bon, il y a plus de demandes. Pour le moment, on est encore dans beaucoup de demandes du style, nous on veut un appartement 3 pièces, où on peut trouver ça, 3 pièces, $1000 à ma campagne, où on peut trouver ça, quoi. Donc on a des demandes comme ça. Donc là, on a créé une section qui s'appelle Youdi Call. Là, nous, on fait appel à nos commissionnaires dont on a l'habitude, et on voit avec eux s'ils peuvent trouver quelque chose pour ce client-là, quoi.
Derrière votre start-up, il y a quel annonceur, quel partenaire financier vous soutient, par exemple?
Nous, on a la BCDC, qui est un partenaire très important, qui nous suit depuis une grande partie, depuis la Cheesebox déjà. Robank aussi, ils sont très très importants avec nous. Multipay, Orange est avec nous, mmh. Africell est avec nous. Donc sur des entités différentes, hein, mmh. Je veux dire, Africell va nous, enfin, Africell, Orange sont avec nous avec la Cheesebox. Mmh. On a American Water aussi qui est dans le magazine. BCDC Eurobank nous prennent dans le magazine et pour la Cheesebox. Et j'imagine plus tard pour Yudi, ils seront certainement avec nous. Mmh. Voilà, bon, je vais pas.
Allez, on se projette dans l'avenir. Quelle est la vision à court et à moyen terme de votre start-up Welcome Group Africa, Sandrine?
Moi, j'aimerais pouvoir continuer à. Enfin, j'aimerais qu'on puisse vraiment embaucher des personnes, certainement les stagiaires qui sont avec nous. Mmh. J'aimerais qu'on grossisse surtout. J'aimerais qu'on grossisse et qu'après on puisse développer des nouveaux projets. Le principe de Welcome Group Africa, c'est de pouvoir recevoir tout le temps des nouveaux projets, ne pas être fermé, quoi. Donc là, aujourd'hui, on est là-dessus. Et après, j'aimerais bien pouvoir développer peut-être d'autres produits marketing et le faire, quoi. On a une certaine liberté grâce justement à nos annonceurs, à des aides comme on a notre... une aide particulière de SCS avec Jean-Robert Isifua qui du coup c'est quelqu'un qui nous soutient énormément dans parce qu'on est jeune et on est dynamique, c'est important pour lui et voilà, nous ce qu'on aime c'est pouvoir d'avoir la possibilité de développer Welcome Group Africa, quoi.
Est-ce que vous avez déjà pu attraper une invitation à participer à une grande réunion de start-up par exemple?
Non, pas encore
Et ce serait un grand souhait pour vous?
Oui, bien sûr. Nous, dès qu'on peut. Alors, nous, on cherche vraiment d'avoir beaucoup de visibilité, quoi. Donc, dès qu'on pourrait faire ça, ben, on le fera.
Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci, Sandrine Maillet, créatrice de la start-up Welcome Africa Group. Merci d'être passée à nos studios.
Merci de nous avoir aussi. Merci beaucoup.
Merci Sandrine Maillet et aussi merci à vous tous, très chers auditeurs, vous qui avez suivi avec beaucoup d'attention Panorama économique de cette semaine. Très bonne fin de semaine à vous tous et toujours restez à l'écoute de la fréquence de la paix.